Merci à tous d'être là. Donc on va vous faire une petite présentation sur quelque chose dont on a beaucoup débattu. On a un rapprochement, mais elle va se présenter entre Hélène Michel, qui est donc docteur enseignante à Grenoble École de Management, et moi-même, qui suis donc le fondateur de Succubus Interactive. Je te laisse peut-être te présenter un peu plus en détail, Hélène, notamment sur les travaux que tu as pu faire dans...
Voilà, donc Hélène Michel, je suis prof, je suis spécialisée en management, je travaille dans une école de commerce et quand j'étudie les jeux, pour moi l'objectif c'est principalement d'étudier la performance sur un certain nombre de dimensions qui peuvent être liées à l'apprenant lui-même mais aussi à la performance organisationnelle, par exemple d'une entreprise qui peut acheter un jeu, d'une université qui peut vouloir déployer un jeu et voilà, donc c'est des travaux sur des méthodes d'évaluation.
Et donc pour ma part, moi les jeux je les crée, je les conçois sur demande, et on essaie de faire des bons jeux. Donc un bon jeu, il faut savoir s'il est bon, et c'est tout le sujet de la conférence. On a beaucoup débattu, et en fait on a fini par conclure qu'on allait vous présenter le tunnel d'acquisition d'un serious game. Alors c'est un petit peu le plan de notre conférence, on va vous expliquer la vie d'un joueur quand il joue à un jeu vidéo, étape après étape, et puis moi pour ma part je vais vous dire ce que nous on sait faire, mesurer. Et puis Hélène, elle va beaucoup plus développer sur la partie analyse. Avoir des mesures, c'est très bien, mais il faut les comprendre. Et c'est une deuxième problématique qui est à part entière. Donc je vais commencer par introduire ce tunnel d'utilisation du serious game. On a cinq étapes. Je vais vous en parler très brièvement, et puis ensuite on va rentrer dans le détail de chaque étape. Donc l'acquisition, cette étape-là, c'est quand un joueur arrive pour la première fois sur un jeu vidéo, sur un serious game, il va l'essayer. L'activation, c'est quand il a fait une première session de jeu. La rétention, c'est quand un jeu, on se reconnecte plusieurs fois. Certains serious games, on n'y joue qu'une fois. D'autres serious games, eux, par contre, comme par exemple les serious games d'entraînement, on y rejoue plusieurs fois. Donc là, on va parler de rétention. Finalement, la participation, c'est à quel point est-ce qu'on devient un prescripteur, à quel point est-ce qu'on parle du jeu autour de nous, à quel point on fait que d'autres personnes viennent se rallier au jeu. Et finalement, la transmission, qui est l'objectif ultime, qui est un petit peu la monétisation du serious game, le revenu, c'est, dans le cas d'un serious game qui descend un message, à quel point est-ce qu'on a efficacement descendu ce message. Encore pour ça, faut-il que le joueur aille au bout de l'expérience. Alors donc, on va rentrer sur la première partie, la partie acquisition. Je vais principalement laisser en fait Hélène se cliquer ses slides sur la suite. Donc, quelle métrique, quelle mesure sommes-nous capables de déterminer pour l'acquisition ? En fait, pas grand-chose. On est capable très facilement de savoir qui s'est connecté une première fois pour essayer au jeu. C'est quelque chose qu'on récupère très souvent. Et donc, du coup, quand on sait qui, on sait combien de personnes. Et sur le qui, on peut savoir d'où il vient. Éventuellement si on a des informations contextuelles liées à sa catégorie socio-professionnelle, etc. Ce qui va être intéressant, c'est ce que va nous présenter Hélène sur que fait-on de ces informations en fait.
Des informations que l'on peut utiliser. Souvent, le jeu est associé à un forum pour les joueurs qui permet de capter des informations type qualitative comme du verbatim, qui permet aussi de poster des messages afin de collecter des informations spécifiques sur un thème. Ça peut être corrélé avec une approche qui est une approche, par exemple, ethnographique, dans laquelle on va soi-même se créer, que ce soit un avatar ou un personnage, etc., pour rentrer dans le jeu afin de collecter tout un certain type d'informations. Avec ces informations de cette nature-là, c'est-à-dire de l'information principalement qualitative, de nature verbatim, comment on peut traiter ça ? Un exemple de traitement, c'est par exemple cette question sur est-ce qu'il est si évident que tout le monde vienne jouer pour la même raison ? Qu'est-ce qu'on en attend? Quelles sont les conditions d'utilisation qui semblent nécessaires pour les uns ou pour les autres? Ça, c'est par exemple lié, pour chacun d'entre nous, notre comportement est lié à certaines attitudes, c'est-à-dire l'opinion qu'on a de certaines choses. Et l'opinion que l'on a de certaines choses est liée à notre système de valeurs. Donc, on a toute une hiérarchie perceptuelle entre nos valeurs qui orientent nos attitudes, qui orientent nos comportements. On peut, avec de la donnée qualitative, comprendre nos systèmes de valeurs et voir comment on peut favoriser l'adoption, par exemple, d'un jeu, ou définir les conditions d'utilisation du jeu les plus favorables. Je vais vous donner un exemple. On peut le faire en ligne, en entretien avec les joueurs. On peut le faire aussi en face à face. Mais par exemple, on va procéder avec des entretiens sous la forme de laddering, comme ladder, l'échelle, où on va remonter dans cette hiérarchie. Et on va commencer sur, vous êtes venu, si on prend le cas d'un jeu de formation, que pensez-vous du fait d'être formé par ce Serious Game ? Alors, on peut avoir des gens qui vont nous dire, mais c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'avec un jeu, je me sens protégé. Et pourquoi c'est important d'être protégé ? Parce que du coup, j'ai le droit de faire des erreurs. Et pourquoi c'est important ? Parce que si j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de les faire en sécurité, en zone protégée, et je ne sens pas le jugement des autres. Pourquoi c'est important de ne pas avoir le jugement des autres qui peuvent être à ce moment-là ? Eh bien, pour moi, c'est important de ne pas perdre la face. Alors là, généralement, les individus n'arrivent plus à formuler des choses du style « voilà, pour moi, la reconnaissance sociale, c'est extrêmement fort, etc. » Mais nous, en tant que chercheurs, on peut coder cela. C'est-à-dire qu'il existe des grilles de classification des valeurs qui nous permettent, en faisant des doubles codages, par exemple, de classifier chacun des chaînages avec un système de valeurs. Ça nous permet, par exemple, d'obtenir des cartes. Là, c'est une carte conçue sur un groupe d'utilisateurs d'un jeu sérieux dédié à de la formation qui permet de tracer toute leur représentation symbolique autour de cette utilisation. Par exemple, c'est génial avec « c'est facile, je me sens protégé, je trouve ça original, c'est sympa, etc. » Sachant que tout ça se décortique en chaînage jusqu'à des valeurs. Et on a un mapping complet de cela. À partir de ce mapping, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Je vais voir si j'ai gardé là. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut catégoriser les valeurs qui, à chaque fois, orientent un certain type d'attitude et de comportement. Si je prends le cas de ce jeu dans ces conditions d'utilisation, etc., donc dans ce cas-là, c'était un jeu de formation en management utilisé avec des managers qui étaient en formation continue. Il pouvait le faire à distance, mais ce qu'il en est ressorti, c'est qu'à chaque fois, pour des valeurs qui étaient de l'ordre de reconnaissance sociale et de tradition, il souhaitait à chaque fois pouvoir être rendu visible dans ce qu'il faisait. Il voulait à la fois être protégé et visible. Et en fait, ils étaient inquiets de pouvoir être laissés à distance. D'utiliser ce dispositif, ça nous a permis de faire un nouveau choix dans l'utilisation du jeu, qui aujourd'hui, enfin le mot-clé qui revenait, c'est rituel, qui aujourd'hui est maintenant utilisé en présentiel, même si c'est un jeu qui peut être fait en stand-alone, en présentiel, avec ce groupe de managers, etc. Et ça nous permet, ce type de carte cognitive, de définir les meilleures conditions pour la première étape, qui est faire rentrer les gens dans le jeu. Donc ça, c'est un exemple de dispositif qualitatif, qualitatif et assez exploratoire, mais qui permet d'être très facilement instrumentalisé.
Merci Hélène. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Voilà, l'acquisition, en fait, dans le cas d'un serious game, c'est pas facile. Dans le cas d'un jeu vidéo, c'est très facile. On essaie d'envoyer le maximum de personnes dessus. Et puis, bon, on joue les statistiques, un petit peu comme avec le tunnel. Si c'est un jeu vidéo gratuit, à la fin, il y a forcément un certain nombre de personnes qui vont payer. Dans le cas d'un serious game, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a d'autres enjeux autour. Et analyser et comprendre ces enjeux demande des méthodes d'analyse bien, bien particulières. Donc voilà, la conclusion, c'est de se dire que le plus grand nombre, c'est pas le mieux. Le but du jeu, c'est d'emmener le plus de personnes en bas du tuyau, mais du coup, peut-être qu'il faut essayer de mettre de la qualité en haut et rendre le jeu attractif sur ces personnes qu'on veut emmener en bas, d'une certaine façon. Deuxième étape, l'activation. Alors l'activation, dans le jeu vidéo, on parle toujours de la FTU, abrévié FTU, des fois la First Time, User Experience. La première fois qu'on va jouer au jeu. La First Time User Experience, c'est quelque chose qui est très 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 important, puisque si on a un joueur qui arrête avant la fin de sa première session de jeu, il reviendra jamais. En tout cas, dans 98% des cas. C'est un tunnel dans le tunnel. Donc on avait un premier tunnel, gros tunnel avec ses 5 étapes. Ben en fait, cette partie FTUE, c'est un deuxième tunnel dans le tunnel. On va mettre des marqueurs à travers tout le jeu pour savoir, dans cette première expérience de jeu, qui va être pratiquement la même pour tous les joueurs, à quel moment est-ce qu'ils arrêtent de jouer. Et puis ben, on va se rendre compte que dans notre entonnoir, dans notre tunnel dans le tunnel, on va avoir des goulots d'étranglement et que c'est sur ces points-là qu'il va falloir agir. Notre objectif, après avoir intéressé en accord avec les valeurs de la personne, donc après avoir intéressé la personne, eh ben cette fois-ci, on va essayer de la garder jusqu'à la fin de notre première expérience de jeu.
Alors, généralement, à cette étape-là, quelles sont les données que l'on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut en faire ? En management et en management des systèmes d'information, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller jusqu'au bout d'une tâche en utilisant un système d'information ? Par exemple, à l'époque où on développait les intranets, à l'époque, enfin, si on met en place un nouveau logiciel, etc. Mais dès que c'est un nouveau dispositif socio-technique, c'est-à-dire il change, ça change votre pratique, ça change votre relation aussi au travail, etc. Il existe des modèles d'adoption, d'acceptation, comme par exemple le Technology Acceptance Model, qui est un des modèles assez stables. Donc ce modèle, il a plusieurs variables, et ces variables vont encourager ou décourager l'adoption par l'utilisateur. Notamment, il existe des variables qui sont liées à « est-ce que ma famille le fait ?» ou « est-ce que, si c'est dans le cadre de situations professionnelles, est-ce que mes supérieurs hiérarchiques le font ?» Imaginez qu'on prenne le cas d'un jeu dans une situation professionnelle, et on va demander à des collaborateurs de jouer. Si le manager n'a pas joué, c'est-à-dire... eh bien, la probabilité que l'outil soit considéré comme utile, pertinent, intéressant et que les gens aillent jusqu'au bout, eh bien, est vraiment très limitée. Comment on peut travailler ça avec les données que l'on a ? À ce stade-là, on a des traces. Par exemple, dans les traces, on peut savoir qui se connecte à quel moment, jusqu'à quand. Donc, on peut voir si les managers ou vos référents, ça peut être vos référents symboliques, la famille, etc., on commençait à se connecter et s'il y a des vagues. Mais si, par exemple, on observe qu'il n'y a aucune connexion de la part des référents, on peut imaginer que les collaborateurs vont à un moment, sauf avec un effet fantastique sur le jeu, vont à un moment perdre foi dans l'utilisation de dispositifs aussi intéressant soit le jeu. Donc de repérer le fait que les managers le font pas, le font peu, ne vont pas jusqu'au bout, avec les traces, est une façon très intéressante pour... détecter, renvoyer l'information, par exemple, à l'université, à l'entreprise, etc., sur les conditions d'utilisation et renforcer le fait qu'il faut l'utiliser parce que ça va encourager les autres. C'est un indicateur extrêmement fort dans le fait que les gens se saisissent d'un dispositif. Utilité perçue. Et si votre manager le fait pas, en quoi vous pouvez percevoir ça comme utile ? Donc là, on est tout à fait en mesure de le tracer, de le détecter, voire de faire remonter rapidement une information là-dessus.
Alors moi, je vais prendre le temps de revenir en fait sur ce premier schéma qu'on vous a envoyé comme ça. Personne ne nous a arrêté. En fait, ce schéma, on l'a pas vraiment inventé. Il existe dans le monde du jeu gratuit, du jeu vidéo gratuit, le free-to-play, ça s'appelle, pas serious. Donc c'est une adaptation de ce tunnel au monde du jeu serious. Quelque chose qui me paraît très important d'expliquer, c'est les catégories de joueurs. On a les hardcore gamers, vous en avez tous entendu parler, c'est des gens qui sont prêts à s'investir à 100% dans le jeu, ils ont beaucoup d'énergie à revendre, ils vont payer le jeu à la Fnac, le ramener chez eux, l'installer sur leur PC, éventuellement télécharger les add-ons, mettre à jour, etc. Voilà. Beaucoup, beaucoup d'énergie. On a le core gamer, lui, il est prêt à se donner un petit peu de mal, mais faut pas pousser non plus. Puis on a le casual gamer. Le casual gamer, c'est le joueur qui ne jouera que si tout lui est préparé. Sinon, il jouera pas. Il ira jouer à un autre jeu parce que il n'a pas envie de mettre de l'énergie. Là, on est dans le cas du serious gamer. Le serious gamer, c'est pire qu'un casual gamer. C'est quelqu'un qui n'a peut-être même pas envie de jouer. Ce qui fait que toutes ces étapes de transformation, dans un jeu vidéo free-to-play classique, on va parler sur la première étape d'intérêt. Ah, c'est curieux, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans le cas du serious game, on va rajouter les valeurs. Dans la deuxième étape, la FTU, première expérience de jeu, eh ben on va juste s'occuper de donner du plaisir et de garder la personne captivée. On voit que un niveau social commence à arriver dès lors. Alors bah on va continuer comme ça et puis on va aller parler de la troisième étape, la rétention. Alors ça s'applique que dans le cas de serious game à répétition de session de jeu. C'est-à-dire que si le serious game est fait pour être joué une fois, cette étape n'existe juste pas. Il y a très peu de jeux vidéo gratuits, enfin il n'y en a même aucun, donc free to play, hein. Ces jeux vidéo ne peuvent gagner de l'argent que si l'utilisateur choisit à un moment ou à un autre de payer. Sinon, il peut avoir une expérience de jeu complètement gratuite. Évidemment, payer, il y a des raisons pour le... On gagne des bonus, on gagne des choses. Donc c'est toujours quelque chose où les joueurs vont avoir plusieurs expériences de jeu. C'est pas forcément le cas dans le serious game. Donc cette étape peut disparaître. Mais dans le cas d'un serious game d'entraînement, eh ben on va revenir s'entraîner tous les jours ou plusieurs fois. Mais faut avoir envie, faut revenir, faut avoir une bonne raison de revenir en tout cas. Les mesures qu'on peut avoir là-dessus, c'est par exemple le nombre de reconnexions moyennes, savoir qu'une personne va se reconnecter 10 fois. Voilà, on va produire du coup des statistiques sur D1, D2, D7, D30, c'est D barbare en fait, ça veut juste dire Day 1, Day 2, Day 7, Day 30. Et donc l'idée c'est combien de joueurs se reconnectent le deuxième jour, combien de joueurs se reconnectent encore au bout d'une semaine, combien de joueurs se reconnectent au bout de 30 jours. Avec ces informations-là, on est également capable d'en générer une nouvelle qui va s'appeler le ratio de rétention. Vous prenez par exemple un D1 divisé par un D30 et vous allez voir que vous avez 20% des joueurs qui étaient là le premier jour qui sont encore là au bout de 30 jours. Si c'est le cas, bravo. C'est que vous avez vraiment fait un très très bon boulot. Chez Hélène, on appelle ça...
Alors, nous, on peut utiliser ça, par exemple, sur, on utilise beaucoup les notions du flow. Donc, on va travailler sur quel est le niveau, par exemple, optimal de stimulation pour qu'un individu reste engagé dans une tâche. Donc, ça y est, il est convaincu, il a commencé. Pourquoi il va continuer, poursuivre ? Il va poursuivre parce qu'on a trouvé le bon niveau, le bon ajustement entre le niveau de challenge perçu, c'est stimulant, et le niveau d'habileté que l'on a pour réaliser. Et donc la difficulté, c'est de mettre les personnes dans la situation de flow sans être trop au-dessus, sinon ils sont dans l'anxiété parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arriveront jamais à le faire, sans être trop en dessous, dans ce cas-là, ils s'ennuieraient. Comment on peut savoir si le flow est bon pour nos joueurs, c'est-à-dire est-ce que notre jeu est bien dosé, est-ce que ça fonctionne bien, etc. Eh bien, par exemple, on peut, avec l'analyse des traces, percevoir des scénarios d'utilisation du jeu. Dans les scénarios, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a des joueurs qui, pour finir le jeu, sont par exemple passés par un certain nombre d'échecs, donc d'échecs, de complexité, de difficultés, mais ils ont surmonté ça et ils sont allés jusqu'au bout. Peut-être que certains, un nombre à définir, ont rencontré des échecs qui leur ont été tellement durs qu'ils ont été insurmontables, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un niveau d'anxiété et ils se sont arrêtés. Et enfin, on va pouvoir voir ceux qui finalement sont allés tout droit, c'est-à-dire que pour eux, ça semblait très simple, c'est-à-dire qu'ils ont fait peu d'échecs, ils sont arrivés très rapidement au bout, mais ils vont pas forcément revenir, ils ont fini. Eux, ils sont maintenant dans une zone d'ennui. On va pas augmenter la rétention avec ce système-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vérifier par l'analyse des traces quels sont les scénarios d'utilisation et de calculer. Enfin, on peut calculer si les personnes sont dans le flow. Et après, bon, ça c'est côté développeur, mais est-ce qu'on peut réajuster, est-ce qu'on peut optimiser, etc., pour faire en sorte, par exemple, de repondérer, de remettre un niveau de difficulté supplémentaire si on s'aperçoit que le jeu n'est pas assez stimulant. Ça, on peut le capter avec des traces, quasiment en temps réel, et nous, on peut le traiter très facilement pour ça. Et les concepts théoriques autour du flow font que si ce degré d'immersion est, on arrive à atteindre le degré optimal. Pour les individus, chacun a son degré à définir, mais si on en met un maximum dans le degré optimal, on va ensuite encourager les étapes suivantes, c'est-à-dire qu'on va optimiser les chances que les personnes aillent sur les prochaines étapes du tunnel. Voilà.
Merci Hélène. Et on va donc passer à la quatrième étape, qui est un petit peu ma favorite, parce que c'est la plus difficile, la participation. La participation, c'est à quel point un utilisateur du processus va être capable de diffuser l'envie de jouer d'utiliser ce même processus à d'autres personnes. On appelle ça le référôle dans le jeu social. Le référôle, en fait, c'est quand un joueur sur un jeu gratuit, avant de payer, on va déjà récupérer quelque chose de lui. On va récupérer une invitation qu'il va envoyer à quelqu'un. Ça, c'est bien parce que ça va faire venir plus de gens. Donc sur notre tout premier tunnel, en fait, participation va se retrouver à en fait renvoyer des gens tout en haut de la pyramide, soit des gens qui étaient sortis de ce tunnel parce qu'ils avaient arrêté de jouer et qui d'un seul coup reçoivent une invitation. Ah tiens, tu t'es mis à jouer à ce jeu-là. Ah bah moi, je me suis arrêté il y a 2 mois, mais bah du coup, puisque tu y joues, bah je vais revenir y jouer pour y jouer avec toi. Ou tout simplement parce que je me rends compte que tu t'y es mis et puis tu viens de battre mon high score. Alors il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une notification peut donner envie de revenir. Et donc ça, c'est ce qui s'appelle de la viralisation interne. C'est faire revenir quelqu'un qui était sur le jeu qu'on avait perdu. Eh ben il va revenir. Donc il se reconnecte. On a également de la viralisation externe pure. C'est donc quand on est prescripteur. Dans le cas d'un jeu internet, c'est assez facile puisque généralement la personne va envoyer des invitations à des personnes qui ne jouaient pas avant ou va faire des publications cliquables et des personnes qui vont cliquer dessus et des personnes qui ne jouaient pas avant. Dans le cas d'un serious game, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on joue pas tout le temps sur internet. On est resté très très générique. Ça marche pour les jeux dans le domaine de la santé, ça marche pour d'autres domaines. Ça marche pour des jeux de formation, pour des jeux de sensibilisation, pour des jeux de promotion, pour des jeux d'évaluation, pour des jeux d'éducation thérapeutique du patient. Voilà, ça marche de toute façon dans tous les cas. Cette participation va pouvoir être mesurée avec tout simplement le nombre de prescriptions formelles faites par le joueur. Combien d'invitations est-ce qu'il aura envoyé? Combien de publications il aura fait? Et du coup, également déterminer un ratio de réussite. Combien de personnes, grâce à lui, sont venues? Dans le cas d'un serious game, c'est un tout petit peu compliqué. Il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à mesurer. C'est par exemple, dans le cadre d'un serious game de formation en entreprise, combien de personnes, grâce au fait d'avoir discuté du dispositif à la machine à café, sont venues jouer naturellement. Donc pour ça, dans le jeu, on introduit des mécaniques de parrainage, par exemple, qui donne des options supplémentaires de façon à bien s'assurer que quand la personne prescrit le jeu, dit et tu précises bien que c'est moi ton parrain parce que du coup on va y gagner tous les deux quelque chose. Ça fonctionne dans beaucoup d'autres méthodes marketing également d'ailleurs.
Alors comment on peut utiliser ça d'un point de vue sciences de gestion et management? Pour nous, ça se rapporte à des théories autour des réseaux sociaux. Donc vous êtes tous sur des réseaux sociaux dans le sens numérique, soit LinkedIn, etc. Sur le réseau social dans ces théories-là, en fait, pour nous, le principe, c'est d'identifier les personnes qui sont considérées comme des ponts, c'est-à-dire qu'il y a... c'est constitué d'un certain nombre de chemins, etc., ou de rivières. Certaines personnes vont créer le pont entre deux zones. Ces personnes-là, qu'on peut considérer comme des vecteurs d'opinion, elles doivent être repérées et elles doivent être analysées. Parce que, par exemple, dans ces théories, ce qui est intéressant, c'est que il n'est pas forcément important d'avoir 500 relations. C'est pas juste le nombre de relations qui va être important. C'est la nature et c'est la variété. Par exemple, si dans votre jeu, vous avez 500 personnes du monde agroalimentaire, fermier, etc., qui jouent, ça ferme votre réseau. Même si 500, ça peut être beaucoup sur un certain réseau, ça le ferme. De la même façon que pour vous, si on doit qualifier la nature de votre réseau social, il est, dans ces théories-là, calculé comme plus intéressant si vous connaissez à la fois un cuisinier, un maître nageur, etc. La variété de votre réseau est une des composantes de sa richesse. En traitant les données des invitations, on peut voir le poids que certains joueurs peuvent jouer par rapport à ça. C'est pas juste par rapport au volume de personnes qu'ils peuvent contacter, c'est pas le nombre d'amis Facebook, c'est la nature des relations qu'ils peuvent avoir et la variété du portefeuille qu'ils ont en face. Si on menait d'un point de vue, par exemple, comment on peut faire du viral sur le jeu, etc., on va élargir les possibilités si la personne a un réseau varié. Et donc, on peut avoir un effet de vague beaucoup plus fort. Ça peut se qualifier facilement et ça peut ensuite s'opérationnaliser, par exemple, en encourageant ou en valorisant des joueurs qui sont sur ces profils-là, sur ces ponts-là, dans un certain contexte. Et on sait qu'ils vont quelque part ouvrir leur réseau d'une certaine façon. Voilà, un usage potentiel.
Merci. Donc, l'identification des meilleurs prescripteurs et la gratification de ces derniers afin qu'ils continuent à bien faire leur boulot. Dernière étape, la transmission. Donc la transmission, c'est mesurer l'efficacité de la transmission. En fait, c'est compliqué pour un bon serious game. Je vais m'expliquer. On va parler de performance ou encore de maîtrise des mécaniques du jeu. Un bon serious game entremêle très finement la réussite sur la partie ludique avec la réussite sur la partie pédagogique. La réussite sur la partie ludique, c'est assez facile à évaluer. On va avoir un score. Bravo, t'as fait 100 000 au lieu de faire 50 000 à la dernière partie. Des fois, ça va être des jeux où on va mesurer la performance sur le temps. En combien de temps as-tu réussi à finir ce jeu, cette partie, ce niveau? On a beaucoup de façons de mesurer comme ça la performance ludique. Quand on va entremêler très finement la performance pédagogique, c'est-à-dire entraver la performance ludique si jamais on n'est pas performant pédagogiquement, mais également, enfin en tout cas sur la compréhension du message, mais également favoriser, donner de nouvelles options aux possibilités, aux mécaniques de gameplay quand on est bon sur la partie pédagogique, sont des choses qui fonctionnent particulièrement bien pour récupérer ces informations. Toutefois, les informations ne suffisent pas forcément.
La question de la transmission, en fait, pour nous en recherche, en management, C'est une question qui est extrêmement importante et honnêtement, aujourd'hui, on peut amener des pistes de réflexion, des propositions. Je me garderais bien de dire qu'aujourd'hui, on a une recette miracle pour fournir une réponse généraliste à tout ça. Finalement, est-ce que ce qu'on a fait dans le jeu est ensuite transférable, dans quelles conditions, etc. Voilà. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là-devant, on met quand même des dispositifs en place qui donnent des résultats sur des cas, etc. Notamment là-dessus, on va travailler sur tout ce qui est expérimentation. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de méthode, enfin, à ma connaissance, dans mon champ par rapport à ce que je recherche, je n'ai pas de méthode qui soit adéquate, qui collecte juste des datas issues du jeu. Là maintenant, pour parler de transmission, eh bien, on va devoir mettre en place un protocole qui essaye de représenter cette phase-là. Je dis bien qui essaye. Et du coup, ça va se passer comment? On va par exemple travailler en disant, ok, expérimentation, ça veut dire déjà qu'on va travailler en essayant de reproduire une situation, là qui est doublement virtuelle, c'est un apprentissage, et puis on va créer une situation artificielle de test. On va faire un groupe jeu et un groupe test qui ne joue pas, avec tous les biais que ça occasionne. Vous imaginez bien, voilà, il y a des gens qui vont avoir le droit de jouer. Est-ce que du coup, ça leur fait une gratification supplémentaire et une motivation? Des gens qui, à la place de jouer, par exemple, vont lire un article avec des choses bien écrites, avec des images, etc. Mais on ne peut pas considérer que ça soit au même niveau que le processus de jeu. Donc on va faire vivre les mêmes expériences. Je vais prendre le cas d'une expérimentation sur un jeu qui est un jeu de vente. On a fait auprès d'un groupe d'étudiants, donc on a pris 150 étudiants de licence. Ces 150 étudiants doivent suivre un module de 30 heures de vente. Au sein de ce module, il y a 2 heures spécifiques qui sont consacrées à un comportement spécifique du vendeur, qui est « je détecte un besoin spécifique chez mon client et je m'y adapte ». Il existe un jeu, donc en l'occurrence, là c'était un jeu de la société des designs qu'on avait utilisé. Et soit dans le groupe test, vous faisiez partie des 75 étudiants qui étaient en train de faire cette session de jeu. Non, soit vous étiez dans le groupe Serious Game, soit vous étiez dans le groupe test. À la place de ça, vous aviez accès à une information qui représente, on va dire, les fiches du jeu. Alors, fiches techniques, c'est un peu plus joli que ça quand même, c'est un peu plus, c'est assez clair, etc. Au bout de 2 heures, c'était fini, on finissait le processus du cours normal. On met en place 2 tests qui sont 2 protocoles d'expérimentation. Le premier, c'est une note théorique, donc c'est-à-dire qu'on va faire passer à une série d'examens assez classiques pour voir le niveau de connaissance. Et puis ensuite, on met en place un deuxième dispositif qui est est-ce qu'ils sont capables d'opérationnaliser ? Puisqu'une des plus grandes difficultés, c'est pour ça que j'ai remis ce schéma, mais je reviendrai dans un moment, c'est qu'en fait, dans l'escalier, à un moment, on a un gap énorme entre le learning et le doing. Les gens ont bien compris. Mais est-ce qu'en situation, ils sont en mesure d'appliquer, d'opérationnaliser? Parce que dans la vraie vie, ce n'est pas les mêmes variables, ça ne se passe pas comme ça et on ne peut pas forcément répondre de façon adéquate. Donc là, pour mettre en place cette situation d'opérationnalisation sur un jeu de vente, on a demandé à des vendeurs, donc des chefs rayons, des chefs produits, etc. Donc ça peut être chez Leroy Merlin sur un barbecue, chez Quechua sur un sac à dos qui tourne, etc. On leur a demandé de venir et de faire passer les 150 étudiants en sketch de vente. Et le résultat, c'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas une note, on disait voilà, les meilleurs à la fin, vous les recrutez. Donc ça veut dire que c'est un assessment et un test de recrutement. Donc ça, pour nous, c'est le système de validation professionnelle. Mettre en place un protocole comme ça, c'est extrêmement lourd parce qu'il faut faire passer des heures et des heures de sketch de vente, d'adaptation en réel avec des professionnels. Bien entendu, il y a des biais parce que soit vous passez sur le barbecue, soit sur le sac à dos Quechua qui tourne, enfin, etc. Et il y a toutes ces problématiques entre guillemets aléatoires qu'on n'arrive pas encore à complètement pondérer. Néanmoins, on peut mettre en place des protocoles complets. Mettre en place un protocole complet comme ça, ça permet par exemple après de faire de qualifier les résultats en scénariotypes en disant voilà, si on prend les étudiants qui avaient une expérience commerciale, ceux qui ont été formés classiquement, c'est-à-dire eux, ils ont lu l'article. Alors eux, ils ont des faibles résultats théoriques, c'est-à-dire que non seulement notre système scolaire ne valorise pas ce qu'ils ont déjà appris, mais en plus dégrade la visibilité que l'on a de leurs résultats antérieurs. C'est-à-dire qu'ils ont des moins bons résultats que ceux qui n'ont jamais rien fait en expérience de vente. Ouais. Oui, parce que le test théorique, enfin, de façon générale, on l'observe dans les expérimentations, c'est que c'est bien de former des gens avec les jeux, mais si nos systèmes et de détection et d'évaluation restent classiques, à un moment, c'est dommage. Et on qualifie sur les différents aspects. Ça nous permet de faire des profilings en disant, voilà, pour ces types de personnes, voilà ce qu'on obtient, etc. Nous, quand on a mis en place des expérimentations de cet ordre-là, on s'est aperçu de quoi ? Que ce jeu, dans ce contexte d'utilisation, n'amenait rien de plus, que ça soit d'un point de vue théorique ou pratique, aux étudiants qui n'avaient pas d'expérience, rien de plus sur learning et doing. Ils étaient ravis, bien entendu. Motivation, satisfaction, donc rien que ça, ça fait monter un certain nombre de choses. Mais pas sur learning, doing, c'était équivalent d'habitude. En revanche, pour les étudiants qui avaient une toute petite expérience, mais une toute petite, c'est-à-dire même une semaine de stage de vente, ils avaient un effet, mais booster, donc le mot n'est pas très joli, mais un effet booster, c'est-à-dire que là, ça révélait complètement leur potentiel, leurs compétences, etc. Et le jeu était dévoilé, cela. Dévoilé et accéléré tout ça de façon très forte. Et du coup, nous, on en tire quoi comme conclusion ? Parce qu'au-delà de se faire plaisir à faire des études, comme on ne va pas utiliser les jeux tous les jours, dans tous les cours, etc., on s'est dit, voilà, nous faisons le choix d'utiliser, pour favoriser la transmission, nous faisons le choix d'utiliser uniquement ce type de jeu avec les licences quand ils ont fait leur stage. On ne fait plus avant. C'est fini. Voilà. Par exemple, typiquement, parce qu'une étude est censée avoir quand même quelques impacts, ça nous a fait changer nos conditions de transmission. Et depuis, en fait, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que leur niveau, pour tous, leur niveau montait parce qu'on avait créé les conditions favorables d'implémentation du jeu et de transmission derrière. Est-ce que je peux prendre une minute maintenant sur ce petit schéma ? Laurent vous a parlé du processus sur le jeu. Sur les aspects performance, sur formation, nous, on travaille avec des modèles qui sont des modèles d'évaluation généraux. Par exemple, ça, c'est un des modèles. C'est le modèle Kirkpatrick et Kirkpatrick. Donc ça, c'est l'intérêt de travailler en famille. Et Philips. Et en fait, eux, ils s'intéressent... Quand ils évaluent une performance, ils pensent à 5 dimensions. La réaction, c'est la satisfaction des apprenants. Est-ce qu'ils sont contents d'être là ? Est-ce qu'ils sont motivés ? Etc. Quel que soit le processus de formation, on peut escompter monter jusqu'à 90%. C'est ce qu'on peut espérer. Avec le jeu, peut-être plus, etc. Mais c'est une des vraies problématiques. Le deuxième niveau, c'est le learning. C'est est-ce qu'on peut leur apprendre quelque chose d'un point de vue théorique ? Là, ce qu'on estime dans tous les processus de formation, c'est classiquement, on estime ça à 60%. Doing, est-ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre ? Là, on n'en est plus qu'à 30% de ce qu'on peut souhaiter. Et ensuite, on a deux niveaux qui sont deux niveaux qui intéressent particulièrement le management. C'est plus vraiment lié à l'apprenant lui-même, mais c'est plutôt lié à l'organisation qui met ça en place. Parce qu'au-delà du fait que les apprenants soient meilleurs, qu'est-ce qu'on en attend, nous, comme bénéfice organisationnel ? Et donc, la dimension résultat, c'est qu'est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce qu'une université, par exemple, peut attendre pour elle, au-delà de ses apprenants, pour elle, quand elle met en place un jeu. Et elle peut avoir des bénéfices organisationnels. Donc ça, par exemple, on est en mesure d'évaluer l'impact organisationnel sur l'alignement stratégique. Pourquoi ? Ben parce que quand vous devez créer un jeu, vous devez définir le message qu'il y a dans le jeu. Pour définir le message qui va tenir en 10, 20, 30 ou 40 minutes, vous devez faire des choix. Pour faire des choix, ça veut dire que quand on fait une table avec tous les dirigeants ou les personnes qui sont en chef de projet sur le jeu, on doit définir le message précis, le modèle et l'aligner. Avant même que le jeu soit fait, il y a des bénéfices sur l'alignement de la vision, sur la pratique, etc., qui se voient. Sur le team building, des effets sur la notoriété, l'image, par exemple, qui sont évalués par des retours presse, etc. Et enfin, sans dire que ça soit le Graal, etc., c'est les retours sur investissement. Et aujourd'hui, on est aussi en mesure de proposer des méthodes d'évaluation de retour sur investissement. Si je prends un cas, aujourd'hui, une entreprise fait des jeux pour... si on prend une entreprise qui fait des jeux pour ses vendeurs commerciaux, etc., on peut calculer de façon pondérée quel impact ce jeu a eu sur l'augmentation du chiffre d'affaires, sur la nature des ventes, etc. Donc là, c'est relativement facile, puisque c'est un système de vente, c'est un indicateur simple. Mais on peut calculer ça aussi sur des indicateurs autres. Par exemple, un jeu sur la qualité peut faire augmenter, par exemple, du chiffre d'affaires, ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire, pas juste à l'échelle de l'individu, mais on peut le faire aussi à l'échelle d'une organisation. Et comme à un moment, c'est quand même l'organisation qui paye, il n'est pas inintéressant de se pencher sur des critères de performance qui soient aussi à l'échelle organisationnelle. Voilà.
Merci Hélène. Beaucoup d'informations, et même y compris sur les quatre étapes précédentes. On va donc conclure. Déjà, en vous remerciant de nous avoir subi jusque-là. Voilà, moi j'aimerais conclure en expliquant que dans le jeu vidéo classique, on a des méthodes qui marchent bien, qui sont prouvées, qui sont utilisées massivement par toute l'industrie pour descendre le tunnel et savoir que ben au bout du compte, un joueur a tendance à rapporter tant d'argent, donc on peut payer pas plus que ça pour le faire arriver en haut, puisque en moyenne il nous rapportera autant d'argent. Et ben dans le Serious Game, c'est encore très 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 compliqué. On voit la jeunesse de notre industrie, on voit les difficultés qu'on a encore à adapter, à mélanger ces contenus anciennement sérieux, nouvellement amusant dans un dispositif qui en est assez balbutiement. Alors on réussit à faire des parallèles entre le monde de la formation classique, entre le monde du jeu vidéo classique, on essaie de mettre le Serious Game au milieu. Si vous essayez d'imaginer tout ce qu'on vient de vous dire, mais dans le cadre d'un jeu de sensibilisation, eh ben tout va varier un petit peu. Dans le cadre d'un jeu d'éducation thérapeutique du patient, ça va encore changer un petit peu. On en est donc vraiment au début. On a essayé de faire un petit tour d'horizon des différentes choses qu'on sait exister et fonctionner. On reste très ouvert. Moi, je suis en quête depuis 2 ans à essayer d'automatiser et de comprendre et de pouvoir dire, de donner un valeur, un score de performance au jeu qu'on produit nous, pour dire, votre jeu, il est efficace, il n'est pas efficace. Vous voyez, il va falloir le modifier un peu à cet endroit-là. C'est très très dur en fait. C'est très très dur et on est très très loin d'y arriver. Mais on cherche beaucoup. Donc, si ces sujets vous intéressent, déjà posez-nous des questions et d'autre part, venez nous voir à la fin quoi qu'il arrive. Merci. On prend même si c'est une réaction.
Alors c'est
pas une question.
Juste, je lance à la volée. Et Hélène nous a parlé de système d'information. Or, dans système d'information, il y a systémique. Et là, il y a une dimension nouvelle qui apparaîtrait. Ou alors, peut-être qu'elle existe déjà. Et comment dirais-je, il faut qu'on l'extrait parce que. Quelque part, on est dans, on a parlé d'appropriation, le processus de gamification, et puis aussi le processus d'apprentissage, d'éducation, et on a le côté systémique. Et donc, on est en perpétuelle interaction avec, finalement, ce que je donne comme image à chaque fois à mes étudiants, le petit train qui délivre de l'information et qui en récupère au fur et à mesure du process du patient. Voilà. Je lance cela. Ça m'a effleuré l'oreille.
D'accord. Donc, merci pour cette présentation que j'ai beaucoup appréciée. Et ma question, elle est toute simple. C'est par rapport à tout ce que vous avez exposé. On avait fait une étude sur chez Orange et on s'était aperçu que systématiquement, dès qu'on était sur des jeux mono-utilisateurs, les utilisateurs délaissaient le jeu. Et certains allaient le recommander, ça peut faire un buzz selon certaines circonstances, etc. Mais ça restait relativement confidentiel. À l'inverse, dès qu'on était dans des configurations jeu à plusieurs, dès qu'on avait une dimension sociale qui intervenait, bingo, on avait une adhésion qui s'opérait, les recommandations qui étaient quasiment systématiques dans le cadre du panel qu'on avait défini et avec le panel d'utilisateurs. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi, en fait?
Alors, je vais faire un parallèle avec un secteur qui n'a a priori rien à voir. Mais le jeu a une zone, est en zone, on va dire, de plaisir. Ça peut être considéré peut-être comme, en marketing, une expérience de consommation. Là, c'est une consommation qui peut être d'apprentissage, etc. En marketing, en comportement du consommateur, quand on étudie l'expérience de consommation, sur notamment les aspects ludiques, on va observer qu'en fait, le fait de le faire à plusieurs augmente significativement l'intérêt. Et je prends des exemples. Qui d'entre vous va dans un parc d'attractions tout seul? Donc il y a que des pratiques qui peuvent être faites par des gens qui sont sur des profils plus experts, etc. Mais on va dire que sur une gaussienne, la majorité des gens, sur des dimensions, dans des expériences de consommation qui sont de l'ordre du loisir, Ça, c'est le bon signe, c'est que ça veut dire que le Serious Games peut être perçu comme loisir. Donc ça veut dire que c'est pas forcément une contrainte, mais c'est quelque chose qui est fait pour être fait ensemble. Et c'est ce qui fait monter le sentiment de satisfaction par rapport à l'expérience vécue. Donc c'est quelque chose qui se connaît en consommation.
Moi, je vais répondre là-dessus, mais en ruant un peu dans les brancards. On peut pas comparer un jeu single et un jeu multi. Il peut y avoir des très mauvais jeux single, il peut y avoir des mauvaises plateformes sur lesquelles on accède mal aux jeux single, et il peut y avoir des bonnes plateformes, des jeux multi faciles sur lesquels on a tout de suite un intérêt de jouer, alors que le jeu single, lui, il est juste pas bien. Donc il faut d'abord dire qu'on compare des jeux comparables, que les jeux sont aussi bons les uns que les autres, et que si jamais tu me dis « oui, mais c'est le même jeu qu'on fait jouer lui tout seul et lui ensuite à plusieurs », je vais te répondre que ce jeu-là, ça veut dire qu'il est moins intéressant tout seul qu'à plusieurs.
Non, c'était pas ça. La remarque que je faisais, c'était que quand tu joues à un jeu monojoueur, ce qui se passe, c'est que, enfin nous, c'est ce qu'on a analysé, c'est que quand tu as fini le jeu, l'intérêt d'y rejouer n'est plus là parce que quelque part, tu es allé au bout de ce que le jeu pouvait t'apporter. C'est-à-dire, tu en as identifié les patterns et donc à partir de là, bon, ben, tu tombes dans le boring pour reprendre le schéma que vous nous aviez montré tout à l'heure. Par contre, quand on était dans une approche multijoueur, ce qui nous semblait être apparaître, c'était que chaque partie pouvait être différente du coup parce que il y a l'interaction qui est mise en place et que chaque partie donc va être différente. Et à partir de là, ça nous donne des configurations qui sont sans cesse renouvelées.
Dans ce cas-là, je concours.
Voilà. C'était plus
et
dans ce sens.
Je remets les brancards en place.
D'accord.
Pour rebondir par rapport à ça, moi j'ai un ami qui dit que le jeu sérieux, en fait, c'est une machine à créer des surprises. Et que le principe du jeu, c'est que ça ne se déroule pas comme prévu, soit parce que ça a été programmé de telle sorte, mais surtout, là où c'est intéressant, les plus belles surprises, généralement, elles viennent du fait que bah, y a de l'humain en face. Parce que là, c'est vraiment, on a du mal à calculer ce que l'autre va faire, voir les autres vont faire, etc. Et pour faire une belle machine à surprise, en substance, il dit il faut laisser une place d'humain et de sérendipité pour que quelque chose de nouveau sorte ou qu'une zone plaisir soit accrue par rapport à ça. Et structurellement, il semblerait que ça soit pas forcément avec du multijoueur, mais le fait qu'on puisse à un moment au minimum confronter, partager, etc. autour du jeu.
Et pour conclure, enfin en tout cas sur cette thématique, on verra s'il y en a d'autres. Moi, j'identifie depuis plusieurs années l'analyse statistique comme un très gros verrou technique d'avenir pour le serious game. Le deuxième, c'est l'utilisation des jeux multijoueurs. Voilà. Donc, on est sur des thématiques où aujourd'hui, j'ai pas de réponse, mais je sens que c'est très intéressant. Mais je sais pas encore pourquoi ni comment.
Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre exposé. Je voudrais poser une question peut-être naïve ou peut-être bête, ou peut-être parce que j'ai pas bien compris tout ce que vous avez exposé. Mais je m'intéresse à l'acceptation de la technologie de l'utilisateur. Parce que on a beaucoup de différentes sortes d'utilisateurs, des enfants jusqu'aux seniors, même des seniors atteints des maladies graves comme d'Alzheimer. Actuellement, je travaille dans le même projet à The Game que mon collègue a présenté ce matin. Quand on travaille sur ce projet, on a un gros problème sur le genre d'utilisateur parce que ça c'est déjà des personnes âgées. Du coup, c'est pas évident qu'il accepte de jouer un jeu ou il accepte de, je dirais, d'acheter un jeu vidéo. Et puis, le fait de lui faire jouer sur le Kinect, c'est pas évident, en fait. Et en plus, c'est une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer. Du coup, la difficulté, c'est encore beaucoup plus en fait. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup sur l'acceptation. Et moi je voudrais savoir dans le tunnel de 5 étapes comment vous voyez cette problématique là. C'est sur quelle partie ou durant de ces 5 parties là. Parce que l'acceptation peut venir de différents facteurs, soit par exemple le prix, le rapport. Ou même la manière d'interaction entre la personne avec le jeu.
Prenons-le comme exemple pratique, moi ça me va très bien. Acquisition, pourquoi est-ce qu'une personne âgée atteinte d'Alzheimer va venir jouer à votre jeu ? C'est la première question à se poser. Ok, comment est-ce que vous allez réussir à faire venir jouer des gens dans la cible sur ce jeu? Il y a plein de choses à faire et il y a plein de façons de mesurer si ça marche ou si ça marche pas. La deuxième étape, et je pense que c'est là où on va rejoindre le mot acceptation, qui est pas exactement tel qu'on l'avait défini, mais quand même pas très loin, ça va être la partie d'activation. La partie d'activation, c'est cette personne, on va la mettre en face du jeu, et elle va avoir sa FTU, sa première expérience de jeu, il va falloir qu'elle aille au bout. Donc, vous allez avoir plein d'étapes à travers cette première, donc c'est un sous-tunnel dans le tunnel, où va falloir analyser à quel moment est-ce que les personnes de la cible, les personnes âgées atteintes d'Alzheimer, vont stopper de jouer. Et alors, en plus, vous introduisez d'autres facteurs, qui est que y a un facteur temps, on l'a vu tout à l'heure avec notre ami expert d'Alzheimer, 2-3 minutes, c'est ça que vous disiez, le temps de concentration. Ça veut dire que votre première expérience de jeu, elle doit durer 2-3 minutes, du coup, si je comprends bien. Donc, peut-être que avec un protocole scientifique, vous allez vous rendre compte que, super bravo, vous avez réussi à monter ça à 4-5 minutes. Voilà. Parce que vous avez bien analysé, vous avez vu que ça, ça allait garder dans le jeu jusqu'au bout. On continue ensuite, rétention. On est typiquement dans le cadre pour The Game d'un jeu avec des séances de jeu à répétition. On joue pas juste une seule fois, on joue plein de fois. Eh bien, qu'est-ce qui fait que après avoir joué une fois, la personne va revenir jouer une deuxième fois? Il va falloir lui donner envie, du plaisir, de l'intérêt, ressusciter, ça c'est toutes les étapes du dessus. Mais il va peut-être aussi falloir lui faire comprendre et lui montrer qu'elle va mieux, que grâce à ça elle a gagné. Voilà. On va continuer ensuite sur la participation, comment est-ce que cette personne âgée peut dire à sa collègue Yvonne que ce serait bien qu'elle rejoigne parce qu'elle est déjà en train de jouer avec Odette. Voilà. Et puis finalement la transmission, vous allez évaluer le gain physiologique opéré grâce à ce processus.
Alors, je ne pourrais pas du tout me prononcer, moi, par rapport à la maladie d'Alzheimer. Néanmoins, quand on cible un public et finalement il ne réagit pas comme attendu, ou à l'inverse, il y a un autre public qui se profile, je vais faire un parallèle avec, au début des années 2000, en France, on a rendu possible le fait de voter électroniquement. Donc, c'est un dispositif sociotechnique. Une des raisons, il y en avait plusieurs, notamment la France sur la carte à puce, voulait prendre des rôles de leader, il y avait des problématiques économiques, etc. Mais une des raisons, avant des élections majeures comme les présidentielles, etc., c'était de réduire l'abstention des jeunes, dont on pensait qu'ils pouvaient voter d'une certaine façon. Donc ce qu'on voulait, c'était que les jeunes votent, parce qu'on pensait qu'ils allaient voter d'une certaine façon. Donc pour encourager ça, on s'est dit, le vote électronique va leur rendre les choses plus sympa, plus facile, à distance, pas besoin de se déplacer, etc. C'est eux qu'on visait. Cette année-là, moi, j'étais en thèse, donc j'ai fait les villes différentes qui faisaient le vote électronique. Et en fait, ce que j'ai vu et analysé, c'est qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de jeunes. En revanche, il y avait des cohortes de mamies qui venaient voter électroniquement. Et comme elles n'y arrivaient pas bien, moi, cette année-là, j'ai voté à peu près 38 fois. Et j'espère que j'ai bien voté. Mais comment on a essayé de comprendre ça, c'est qu'en fait, quand il y a une espèce de gap entre ce à quoi on s'attend dans les motivations et ce qui se produit, eh bien, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai mobilisé aussi les cartes cognitives. Et c'est comme ça, par exemple, que chez les jeunes, je me suis rendu compte qu'ils allaient me dire « Le vote, c'est le seul moment où je fais quelque chose pour marquer mon appartenance à la communauté. Donc, pour moi, c'est important de me déplacer quand je vais voter. » Parce que quand je me déplace, je fais un effort. Parce que quand je fais un effort, ça veut dire que ce que je fais est important. Et si je fais quelque chose d'important, ça veut dire que je mérite le regard des autres, etc. Si vous le rendez trop facile, vous m'enlevez ça. Donc non seulement ça ne faisait pas voter plus, mais ça décourageait ceux qui pensaient faire quelque chose qui les différenciait d'autres. Voilà. À l'inverse, par exemple, sur les petites mamies, on avait un discours qui était sur l'hédonisme, mais pas forcément l'hédonisme et la reconnaissance. C'est je veux pouvoir dire à mon petit-fils que je l'ai fait. Je viens voter électroniquement pour dire à mon petit-fils que je l'ai fait. Ou je ne veux pas rester sur le bord de la route. Donc elle faisait de la suractivité par rapport à ça. Par exemple, les cartes cognitives dans ces moments-là sont aussi des façons, quand à un moment on n'arrive pas avec une échelle, un quiz, un questionnaire, enfin, il y a un moment il n'y a plus de réponse simple, on est dans un problème, alors là la systémique ça va à fond, quoi. On est dans un problème qui joue sur un certain nombre de variables et un certain nombre de symboliques qui font qu'il faut peut-être prendre les choses de façon plus ouverte, plus exploratoire, et puis les cartes permettent de creuser par rapport à ça. Voilà. Alors, il y a nécessairement un enchaînement dans toutes les étapes. Moi, sur cette étape-là, ça me parle dans le sens, ça me remémore cette situation sur les gens qui ne s'engagent pas dans le premier moment, dans la première dimension. Et du coup, ça sert à quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter le vote électronique en France, ça veut dire que les conditions d'utilisation, elles ont été repensées. Par exemple, au lieu de dire on va aller vers du vote à distance, à un moment, un des scénarios envisagés, ça a été de dire on va autoriser le vote électronique dans toutes les mairies de France. En revanche, où que vous, par exemple, vous vivez à Nice, ce week-end-là, vous êtes à Paris, vous ne revenez pas voter à Nice, vous ne votez pas à distance, vous allez vous rendre dans une mairie à Paris et vous votez là. Et on gardait une forme de relation citoyenne, de déplacement, etc. C'était un des scénarios, entre guillemets, intermédiaires qui avait été envisagé, prenant en considération les difficultés, enfin, ces aspects symboliques-là. Donc ça peut aider sur, ça ne change pas le dispositif lui-même. Ça cherche des conditions qui rendent plus favorable l'engagement initial.